La semaine dernière, j'ai pas eu le temps de le terminer. C'est comment contempler la gloire de Christ pour être transformé. C'est basé sur la prière de Jean 17. Et ce matin, pendant ce temps de louange, il y avait un chant qui disait: Seigneur, tu es digne de recevoir la gloire, la louange, l'honneur. Et la gloire, en fait, c'est ce qu'on lui apporte pendant le temps de louange. C'est pour ça que c'est très important, ce temps de louange, et qu'on puisse le vivre pleinement à chaque culte, parce que c'est là qu'on donne la louange à travers des paroles qui sont tournées vers le Seigneur, vers son œuvre, vers ce qu'il a fait pour nous. Et vous allez voir aussi dans la prédication, je rappellerai ça, que c'est cette contemplation de tout ce que Jésus a fait pour nous qui le glorifie. Et c'est ça qui est important. Je vous invite à la prière. Père, merci parce que tu es celui qui est seul à recevoir la gloire, la louange et l'honneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons vraiment rester dans cette optique qu'aucune gloire ne revienne à un homme, quel qu'il soit. Nous voulons t'apporter toute la gloire qui ne revient qu'à toi, Seigneur. Conduis ce temps de prédication afin que je puisse apporter cette parole avec l'autorité de ton esprit et que nous puissions être transformés. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne relis pas toute la prière de Jean 17, elle est très longue. Je n'aurais pas dépassé le temps, mais je l'ai lu en entier le dimanche dernier. Je prends simplement à partir du verset 14 de cette prière que Jésus adressait à son Père. Je leur ai donné la parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. C'est la parole de Dieu. John Knox, réformateur protestant, vous connaissez Luther, Calvin et d'autres, Zwingli. John Knox est celui qui a réformé l'Église catholique de l'époque en Écosse. Donc c'est le réformateur écossais. Et ce réformateur avait tellement d'autorité dans la prière que la reine d'Angleterre, que la reine d'Écosse avait peur de ses prières plus que de toute l'armée anglaise. C'est pour dire que quand il priait, le Seigneur répondait avec une grande puissance, comme quoi, quand on prie, eh bien, on peut faire plus que toute une armée. C'est pour ça aussi qu'on prie pour l'Ukraine, on prie pour ce qui se passe dans le monde. Et il faut croire à la puissance de la prière. La prière, ce n'est pas un presse-bouton, on demande et on doit recevoir. Non. Dieu donne en son temps, comme il veut, de sa manière. Et nous, on est dépendant de la volonté de Dieu, qui parfois est immédiate, donc on a une réponse immédiate, parfois, voilà, mais c'est notre soumission qui est importante. Et le fait de croire que la prière est importante. Il y en a qui croient dans la salle que la prière est importante, que la prière est efficace, que la prière est puissante. Alors, voilà, je vous invite à prier de plus en plus aussi en Église, et c'est simplement une invitation. Jean 17, cette connaître Christ, c'était tellement fort pour John Knox qu'il a demandé à sa femme de lui lire ce passage sur son lit de mort. Et au moment de mourir, sa femme lui a lu tout le passage de Jean 17 parce qu'il croyait à la prière. C'est un homme de prière. Un homme qui a transformé l'Écosse. Et c'est quelque chose qui a bouleversé cette nation par cet homme. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi. Voyez-vous, ce qui est important, c'est que la prière de Jésus, ce n'était pas uniquement pour ses disciples. Bien sûr, il l'a prié au moment où il était avec ses 12 disciples. Mais au moment où il a prié pour nous, pour ceux qui croiront en moi. Il y en a ici qui croient en Jésus? Eh bien, c'est pour vous, c'est pour nous. Cette prière est pour nous. Donc Jésus a prié par anticipation pour ce qui allait se passer, parce que lui est hors du temps. Lui, il est dans l'éternité. Nous, on est dans un temps précis qui est limité. Donc cette prière est pour nous. Et si je prends cette prière au premier degré, pour moi, c'est extraordinaire parce qu'on peut déjà aujourd'hui connaître la gloire dont Jésus a parlé. Alors, on va voir trois choses. Je vais rapidement passer sur la première parce que je l'ai abordée la semaine dernière. C'est ce que nous avons besoin, comment nous pouvons le recevoir, et le dernier point, quel est le résultat de ce que nous avons reçu. Donc, c'est un petit peu dans ces trois points-là que nous allons explorer ce matin. Qu'est-ce qu'on a le plus besoin? Eh bien, ce que nous avons le plus besoin, c'est la reconnaissance, de reconnaître qui on est. Voyez-vous, nous, on est un bébé, hein, nous, on a des petits-enfants, certains sont petits. Eh bien, au départ, on ne connaît pas qui on est. On est pris en charge par nos parents, par la maman en particulier au début. Et donc, ce qu'on a le plus besoin, c'est de se sentir aimé tel qu'on est, comme on est. On est tous nés avec des caractéristiques différentes les uns des autres. Et si on n'est pas aimé qui on est, si on est aimé, voilà, parce que parfois il y a des choix de la maman ou du papa, on aime plus un enfant qu'un autre. Ben c'est dramatique. C'est dramatique pour l'enfant qui n'est pas aimé au point que l'autre est aimé. Et souvent, c'est des jalousies, c'est des grands dysfonctionnements par la suite. La reconnaissance de qui nous sommes et le fait d'être acceptés tels que nous sommes est absolument fondamental. Verset 23, Jésus prie: Père, je veux que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dans ce verset 23, il y a deux choses importantes. Tu m'as envoyé. Le terme envoyé en grec, c'est apostolo. C'est de là que vient apôtre. Apostolo, tu m'as envoyé. Jésus, c'est le premier apôtre de Dieu. Après, il y a les 12 apôtres de Christ, mais l'apôtre de Dieu, c'est le Christ, c'est Jésus. Il a été envoyé. C'est pour ça le terme apostolique aujourd'hui, apôtre, on le remet un peu au goût du jour, mais à la base, il faut comprendre que Jésus a été envoyé. Et c'est là la particularité de ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que Jésus, il est homme, il est né, là, prochainement, on va fêter la fête de Noël, où il est né dans une crèche. du ventre de Marie, sauf qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, mais il est né comme nous, comme un enfant de cette terre, avec cette race, parce qu'il devait incarner la race adamique, la race d'Adam. Mais il a d'abord été envoyé. Et envoyé comme fils de Dieu sur la terre pour devenir fils de l'homme. Et c'est pourquoi les pères de l'Église, au début, quand ils ont voulu conceptualiser la doctrine chrétienne, c'était extrêmement difficile, contrairement à d'autres religions qui n'ont pas cette conception complexe des choses où Jésus est homme et il est Dieu. Il est Dieu et il est homme. Et ça, n'essayez pas de comprendre, c'est impossible à comprendre parce que ça dépasse notre compréhension charnelle. Mais par la foi, nous pouvons saisir que Dieu, que Christ, Jésus, il est homme et il est Dieu. Il a été envoyé. Et pour connaître quoi ? Connaître la bonne nouvelle. Jésus est venu pour apporter l'évangile, la bonne nouvelle. Voyez-vous ? L'Ancien Testament a prévu la venue de Jésus, mais Jésus est venu pour faire connaître la bonne nouvelle et il nous demande de la faire connaître, donc de transmettre à d'autres la bonne nouvelle. Dieu envoie son Fils. Il n'est pas seulement né, il est aussi envoyé. Et là, je voudrais faire un petit parallélisme avec l'Église où le Fils, Jésus, envoie les apôtres en mission. Il les envoie pour guérir les malades, etc., les 12. Et donc les ministres dons d'Éphésiens 4 ne sont pas simplement acceptés par l'Église, mais ils sont d'abord envoyés par le Christ. C'est des ministères dons. Ça fait partie de la conception de l'Église. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je vais prendre ma petite veste parce que j'ai un peu froid. Ça vient tout de suite sur ma gorge. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Aimer, non pas en fonction de notre manière d'être ou de faire, c'est aimer tout simplement. Nous sommes aimés. Voyez-vous, nous, on donne notre amour à nos enfants, nos partenaires et tout ça, souvent en fonction de ce qu'ils ont, de ce qu'ils nous donnent, de ce qu'ils font. Bon, c'est humain. Ils nous font beaucoup de bien, on les aime, etc. Donc, on peut même arriver à de la manipulation avec ça. Mais Jésus dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyez-vous, nous sommes aimés de Dieu de manière absolument inconditionnelle. Inconditionnelle. C'est un amour qu'on appelle l'amour agapé, l'amour de Dieu. Ce n'est pas l'amour philéo, c'est l'amour, parce qu'il y a trois termes en grec, c'est utilisé dans l'écriture parfois philéo pour amour. C'est l'amour fraternel, l'amour humain, l'amour relationnel, etc. Et l'amour éros, c'est l'amour physique. Mais l'amour agapé, c'est que Dieu qui peut la donner. Et c'est ce mot-là qui est utilisé dans 1 Corinthiens 13, qui est l'amour absolument inconditionnel de Dieu. Dieu nous sauve au moment où on croit. Voyez-vous, on a besoin juste de croire. Crois et tu seras sauvé. C'est-à-dire cet amour, on le reçoit juste par la foi, vous le savez. Tu as aimé le monde comme tu m'as aimé, donc même le monde, nous étions dans le monde, Dieu nous a sortis du monde, et il nous a aimés comme Dieu nous a aimés. Et tout ce que Jésus a fait à la croix nous est imputé. Tout ce que Jésus a fait, nous en sommes bénéficiaires. Nous sommes au bénéfice de tout ce que Jésus a fait. Voyez-vous, c'est vraiment un cadeau qui dépasse notre imagination, mais qui est une réalité. Et seul le Père sait à quel point son Fils nous a aimés. Jésus, quand il a agonisé à Golgotha avant la croix, ses disciples se sont endormis et Jésus lui a dit « Vous ne pouvez même pas rester une heure en prière avec moi. » Lui, il a agonisé jusqu'à des grumeaux de sang qui sont tombés tellement il a lutté parce que le poids du péché était sur ses épaules et qu'il devait boire cette coupe. Il a dit « Seigneur, Père, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et quand on contemple cela, Quand on contemple Jésus, et je sais que les cantiques qu'on avait, pas de mon temps, parce que même avant, dans les réveils, il décrivait tout ce que Jésus vivait, eh bien, c'est de cette manière aussi qu'on saisit tout ce que Jésus a fait pour nous. Et ce serait bien de temps en temps de revenir à ces chants qui nous contemplent la beauté parfaite de l'œuvre de Jésus à la croix. Il s'est sacrifié. Dans sa mission, il a donné toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il y a un modèle aussi pour les maris dans Éphésiens 5 qui doivent aimer leur femme jusqu'à sacrifier leur vie. Vous voyez? C'est un sacrifice total de sa vie. Et David Elliot Jones, qui était auprès de la reine d'Angleterre pendant de longues années, je sais pas, chancelier, chapelain. Non, enfin, il était auprès de la reine et il était à Londres, à Oxford. C'est un très très grand théologien. Il a écrit toute une série sur Jean 17. Il y en a beaucoup qui ont évoqué Jean 17, cette prière, lui aussi. Et il dit, c'est quand on réalise qui on est en Christ, pour Dieu, notre vraie identité en tant que chrétien, c'est là qu'on commence à contempler le Christ et à être transformé. Quand on lit la Bible et qu'on s'empare des vérités sur nous, sur ce que décrit Jean 17, qui nous sommes en Christ, que l'amour dont nous sommes habités par Christ, eh bien, nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Si vous réalisez aujourd'hui un tout petit peu cela, vous ne sortirez pas d'ici sans être transformé. Et c'est souvent ce qui se passe dans le réveil. On réalise qui on est dans le Seigneur. Alors, il y a un autre philosophe, cette fois-ci Charles Taylor, un Canadien, qui a écrit un ouvrage magnifique sur les sources du moi, qui je suis. Il est reconnu mondialement pour cette capacité d'analyser aujourd'hui l'identité. Et le problème de l'identité, et ce qui affecte les chrétiens aussi, hein, puisque nous sommes dans ce monde, c'est l'identité moderne, c'est que jusqu'à ces derniers temps, et ça touche le monde entier, jusqu'à ces derniers temps, mais plutôt la culture occidentale quand même, jusqu'au XXe siècle, la culture nous apprenait qui on est, qui on était. La culture, les parents, bah, tu es le fils, le fils ou la fille d'un tel, etc. Voilà. La culture prenait en charge notre identité, nous expliquait, etc. Il y avait une certaine docilité à croire qu'on n'est pas comme ça. Mais on est dans un terreau culturel et notre identité est forgée. Et du coup, ça crée bien sûr des crises l'adolescence où parfois on pouvait rejeter qui on était à cause de la société qui est trop, trop importante, etc. Bon, on appelle ça la crise de l'adolescence. Mais on savait au départ, la culture pouvait nous apprendre qui on est. Aujourd'hui, c'est la première fois dans l'histoire qu'on nous dit, c'est vous qui déterminez qui vous êtes. C'est vous qui déterminez qui vous êtes. Personne n'a le droit d'imposer votre identité. C'est pour ça qu'il y a le problème du genre, il y a le problème, enfin tout ce qu'on connaissait, le problème identitaire aujourd'hui, hein, c'est partout, on parle qu'il faut rechercher son identité. C'est vrai que moi j'ai connu mai 68 à Paris, où les étudiants avaient écrit « Il est interdit d'interdire ». Dire même interdire, c'est interdit. Et donc, du coup, depuis, on hérite de cette révolution qu'on appelle révolution des mœurs, révolution sociale. Eh bien, ça ne fait qu'avancer dans ce fait que personne n'a le droit de vous dire qui vous êtes. C'est vous qui déterminez votre genre, votre identité, qui vous êtes, etc. À bas l'autorité, hein. L'autorité n'a plus le droit de vous dire qui vous êtes, l'autorité de l'État, du maire, de l'instituteur, du pasteur, du maire, du père de famille, qui doit imposer quelque chose. Je sais que mes propres parents n'osaient pas transmettre ce qu'ils ont connu à leur belle-fille, leur beau-père, etc., parce que voilà, c'était politiquement incorrect, ils se faisaient reprendre, ce qui n'a jamais été le cas dans les générations d'avant. Car on veut découvrir chacun par soi-même qui on est. Alors, on a besoin de beaucoup de coachs, hein, de coachs, de gens qui vous aident à savoir qui vous êtes, etc. C'est le gros problème de la transmission. Aujourd'hui, la transmission n'est pratiquement plus possible à cause de ça. Et Charles Taylor, il dit dans son livre, on a besoin, pourtant, besoin désespérément de l'affirmation des autres pour savoir qui on est. Parce que si vous êtes tout seul sur une île, hein, il y a des films là-dessus, bon, à la limite, vous en fichez qui vous êtes, il faut juste survivre. Il faut trouver de quoi nourrir, etc. Mais quand vous êtes dans une société, parce qu'on est fait pour être dans une société, on a besoin de l'affirmation des autres pour nous dire qui nous sommes. Donc dans une culture, dans le temps, on vous disait qui vous êtes, tout le monde était d'accord, parce que tout le monde se reconnaissait. Maintenant, quand vous vous dites qui vous êtes, vous avez besoin de l'affirmation des autres. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Facebook, avec les likes. Oui, et le nombre de likes va nous aider à savoir les gens qui sont d'accord avec ce que je dis, etc. Donc voilà, donc c'est ça qui nous fait notre identité avec le nombre de likes qu'on peut lire sur ce que nous on produit. Et très souvent on produit une image que nous on a envie d'être. C'est pas forcément qui on est, mais en tout cas une image. Et qui ensuite après, petit à petit, on devient cette image à force d'avoir ces likes. Il y a un vide par le manque de reconnaissance des autres. C'est pour ça qu'on a besoin de ces réseaux sociaux qui nous encouragent à toujours mieux avoir des affirmations. Et Taylor dit qu'aujourd'hui, il y a un problème de la fragilité de notre personnalité. C'est-à-dire qu'elle est fragile à cause de ça, parce que si on n'a pas assez d'affirmations, à un moment donné, ça s'écroule. Ah oui, je ne suis plus aimé. Ah non, non. Si vous dites une opinion qui ne convient pas, alors si vous êtes politiquement correct, vous pouvez avoir beaucoup de likes. Mais si jamais vous dites un peu ce que vous pensez, alors là, c'est fini. Il y a toute une partie qui ne va plus vous aimer, etc. Vous voyez, c'est fragile. Cette affirmation de soi, c'est fragile. Il y a un autre point de vue sur l'identité, il faut être hot, attractif. Il faut être hot, à tous les niveaux. Vous voyez ? Donc, cette société aussi vous oblige à être au top level de tout pour que votre identité puisse s'affirmer. Regardez la publicité. Elle doit être attractive. Le marketing permanent, sur la télévision, tout ça, les publicités, il faut que ce soit une image qui vous donne envie de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez vivre, de ce que vous allez consommer. Tout doit vous aider à vous sentir bien. Tout doit vous aider à vous sentir bien. Le confort avec les trucs douillets, etc. Voilà, ça c'est... Et puis en plus, ça permet à ceux qui les fabriquent, bien sûr, de faire de l'argent. On vous présente ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez être comme ça, eh bien, ressemblez à ça, etc. Vous voyez, c'est toute cette fragilité. Ce que vous désirez, votre désir, eh bien, personne ne peut vous empêcher d'être rentré dans vos désirs. Et pourtant, les gens sont de plus en plus insécures. Voyez-vous ? C'est pour ça qu'ils parlent de cette fragilité. Avec les millions de likes, eh bien, on sent qu'il y a des gens qui se suicident, qui tombent dans dépression, machin, etc., parce que justement, il n'y a pas assez, vous voyez, ce manque d'information. Il faut être cool tout le temps, cool, il faut être cool. Oui, parce que si vous stressez un peu les autres, vous n'aurez pas les likes. Et même s'ils ont de l'argent, ces gens-là, eh bien, intérieurement, ils se haïssent eux-mêmes. Regardez les stars, ils ont de l'argent. Le nombre de stars qui mettent fin à leur vie. La vérité, c'est qu'au fond de nous-mêmes, nous sommes pécheurs avec du vide. Et nous sommes en manque d'amour profond. Et ce n'est pas les likes, ce n'est pas ce que nous allons promouvoir comme identité qui va remplacer ça. C'est un manque. Et donc, c'est l'évangile que nous devons apporter pour dire, bah oui, ce manque, vous n'allez pas le remplacer par tous ces artifices. Il vous faut être sauvé par Jésus. Dans l'évangile de Jean, verset 23, que nous avons lu, il dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Voyez-vous, quand le chrétien comprend qu'il est aimé comme Dieu a aimé Jésus, comme Dieu a aimé Jésus, imaginez, contemplez un peu cette parole. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Ça ne veut pas dire que vous n'utiliserez pas les réseaux sociaux, c'est que vous utiliserez pour comme un moyen d'échange. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour connaître votre identité. Vous êtes aimé de Dieu comme Dieu a aimé Jésus. Vous vous rendez compte? Laisse pénétrer ça dans votre cœur. Et les choses vont complètement changer. Dieu vous aime comme il a aimé Jésus. Et le problème, c'est qu'on ne le croit pas vraiment. On ne le comprend pas comme une réalité. C'est une réalité, les amis. C'est une réalité. Jésus l'a dit. Jésus l'a proclamé. Et si cette réalité rentre dans nos cœurs, les choses changent, les églises changent, les chrétiens changent, les relations changent. Vous voyez ? Parce qu'en fait, on voit les choses différemment. On va vivre comme Jésus, comme Jésus. Jésus, il était aimé du Père et il donnait cet amour à 100% parce qu'il ne cherchait pas. Il ne cherchait pas des likes, il ne cherchait pas... Voilà. Si les pharisiens, ils confrontaient les pharisiens, etc. Bon, voilà, parce qu'il était tout simplement lui-même. Lui-même, sans être obligé de chercher une confrontation. Alors, deuxième point, d'abord, ce que nous avons le plus besoin, c'est la reconnaissance et l'amour que nous recevons de Dieu. Deuxièmement, comment reçoit-on cet amour et ce qu'on cherche? Alors, le verset 24 que nous avons lu, c'est « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ça, mes amis, contemplez cette parole. Relisez-la chez vous. John Knox a demandé à la fin de sa vie pour que même dans l'éternité, cette parole soit gravée dans sa mémoire. Afin qu'il voie ma gloire. Aujourd'hui, on peut voir la gloire de Dieu, la gloire de Jésus. On peut la voir. On peut la voir, mes amis. Verset 24, il dit qu'il voit ma gloire, celle que tu m'as donnée. On va le connaître pleinement dans le futur, ça on est d'accord, après notre mort. Mais pas seulement. Aujourd'hui déjà, on peut la voir. Aujourd'hui, on peut voir la gloire et la connaître en partie. En partie seulement, parce qu'on ne peut pas supporter toute la gloire, effectivement, de Jésus. Alors, ce que nous dit Paul, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il dit « Or, nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur en esprit. » Ça, c'est un passage aussi, il faudrait beaucoup de temps pour bien rentrer dans la compréhension de ce passage, qui nous dit aujourd'hui, nous pouvons être transformés dans l'image du Seigneur, dans l'image de Jésus, nous pouvons être transformés de gloire en gloire. C'est-à-dire, nous pouvons de plus en plus connaître la gloire du Seigneur et de plus en plus rayonner. Je crois vraiment que si nous pouvions arriver à réaliser ces vérités, eh bien, notre visage rayonnerait comme celui de Moïse, celui de Watchman Nee que certains ont lu en Chine, qui évangélisait, etc. Nous pouvons porter cette gloire et nous n'avons même plus besoin de témoigner avec des mots. C'est les gens de dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que c'est? Et souvent, ça peut arriver, j'en parlerai tout à l'heure, à certains moments précis de notre vie. Mais il faudrait que ça devienne vraiment ça pour l'ensemble des chrétiens. Quand on le voit, on devient comme lui. Car on le voit comme il est. Ça, c'est la réalité. Quand on le voit, est-ce que nous le voyons? Est-ce que nous voyons Jésus comme il est? Vous voyez, les publicitaires nous montrent un produit tel qu'on le souhaite. Voilà, la femme est libre avec Moulinex. Le Big Mac, voilà, il faut qu'il soit bien présenté, voilà. Peut-être quand vous l'aurez, il est un peu déformé, mais là, il est beau et tout ça. Vous avez envie de le croquer, etc. Et les publicitaires, ils savent montrer un produit tel que vous le souhaitez. Et il est attirant. Il vous donne envie de l'avoir de chez vous, de l'envie de le posséder. Et bien, Dieu montre sa gloire aujourd'hui sur la face de Christ. Il a montré il y a 2000 ans, mais aujourd'hui, vous pouvez le voir par la foi. Regardez Jésus, lisez, qui est Jésus. Lisez les évangiles, relisez les évangiles. Je crois que John Wimber, il lisait les évangiles, je ne sais pas combien de fois par jour. Et c'est pour ça qu'il avait un témoignage puissant de guérison, parce qu'il faisait comme Jésus. On peut le voir par la foi. Ça s'appelle la contemplation en esprit. Ce n'est pas contempler comme ça, mais contempler Jésus, qui il est, qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Faire des efforts, mes amis, ne sert à rien. Vous savez, on va bientôt être le nouvel an, on prend des bonnes résolutions, tout ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Nous ne pouvons rien faire par nos efforts. John Owen, donc John Owen, c'est quelqu'un qui a vécu au XVIIe siècle, hein, qui a écrit un livre « Méditation et contemplation de la gloire de Christ ». Donc lui, déjà, au XVIIe siècle, il a réfléchi à ça. Comment est-ce que la gloire de Christ peut venir dans ma vie ? Il dit « Ce n'est pas par la volonté, ce n'est pas par des efforts qu'on peut changer. » Voyez-vous, on ne devient pas honnête en essayant dur d'être honnête. Vous pouvez essayer d'être honnête. Vous pouvez faire tous les efforts, mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Si vous n'êtes pas naturellement... Vous pouvez... On ne devient pas généreux en essayant durement d'être généreux. Voyez-vous, vous pouvez faire des actes de générosité, etc. Non. Car en essayant... En fait, le problème, c'est que qu'en essayant de faire ça, vous dites, j'ai besoin de ça, ok, je dois le faire, peut-être pour aller au ciel, ou pour plaire à un tel, ou pour plaire au pasteur, ou pour plaire ceci, cela. Vous voyez, il y a toujours une motivation. Si vous faites ça parce que vous êtes convaincu qu'il faut être généreux, honnête, ou autre chose, oui, ça peut vous aider momentanément, mais ce n'est pas durable. C'est toujours superficiel, et ça va retomber. Mais c'est en contemplant ce que Jésus a fait à la croix que je change. Car il est un sauveur qui me change, qui me transforme par sa gloire, parce qu'il est. Parce qu'il est naturellement quelqu'un de glorieux qui fait les choses parfaitement. Et par le rayonnement de sa personne, il me transforme de gloire en gloire. Et plus je me plonge dans les Écritures, plus je regarde ce que Jésus a fait, mais plus je vais être changé. Non pas parce que je veux changer, mais parce que je le contemple. Et là, le Seigneur fait une œuvre de transformation dans ma vie. Regardez Zachée. Quand Jésus est parti, il a dit, je donne 10 fois, je crois, tout ce que j'ai pris. Vous voyez, Jésus ne lui a pas dit de le faire. Mais il a rencontré Jésus. Il était pécheur, il a volé les Juifs parce qu'il faisait collusion avec les Romains, c'est un collecteur d'impôts. Là, il rentre, Jésus rentre chez lui, dans son intimité, il voit Jésus, il est transformé par ce qu'il voit dans l'attitude de Jésus vis-à-vis de lui. Il dit, mais je suis pécheur. De toute façon, les pharisiens ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait Jésus, mais il ne se rend même pas compte qui il est, etc. Non, Jésus est allé là parce que le Père lui a montré qu'il avait besoin d'être sauvé. Et Zachée, eh bien, sans que Jésus lui dise quoi faire, il a décidé, effectivement, par le fait qu'il est transformé, eh bien, de donner tout ça, de rendre, disons, 10 fois plus que ce qu'il a pris à ceux qu'il a volé. Il y a quelque chose qui me fascine, que je voudrais vous partager, c'est que, vous voyez, quand vous regardez comment Jésus a fait face à Satan, il a défié Satan, il a regardé en plein dans les yeux. Parce que la première chose qui s'est passée quand il a été, après le baptême, le Saint-Esprit l'a envoyé dans le désert. Pour rencontrer qui ? Satan en personne. Satan lui-même. Et Satan, ce n'est pas un concept, ce n'est pas un principe. C'est une créature et qui s'oppose à Dieu. C'est un ange. Et Jésus l'a regardé en face. Et à chaque fois, les trois tentations, il a dit non, il est écrit. Il n'a jamais succombé à la tentation. Adam et Ève, ils ont vu, comme la publicité, « Oh là là, ce fruit, ce serait bien que tu l'aies. » Voilà, voyez-vous, c'était cette attirance d'avoir le fruit. Jésus, pendant 40 jours et 40 nuits, il a jeûné. Et là, il y avait du pain, enfin, il y avait des cailloux, et Satan lui dit, si tu dis un mot, ça deviendra du pain, et tu pourras manger. Et Jésus a refusé, parce qu'il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Jésus est resté fidèle à son Père. Et ça, quand vous regardez ça, vous êtes fascinés par le Seigneur qui regarde. Et il a regardé jusqu'à la fin, jusqu'au moment de sa mort. Et il a résisté à Satan. Et quand vous voyez que Jésus a résisté à Satan comme ça, et qu'il l'a fait pour vous, pour moi, pour nous, eh bien, on ne peut être que transformé par l'amour que Jésus a pour nous, parce qu'il l'a fait pour nous. Lui, il n'avait pas besoin. Il était Dieu. Il n'aurait pas eu besoin de s'exposer comme cela, mais il l'a fait pour nous. Et quand je vois Jésus, eh bien, je peux vraiment dire, Seigneur, merci, parce que tu me sauves de la plus grande difficulté que je peux avoir dans ma vie. Satan en personne qui veut atteindre ma vie. Toi, tu l'as défié, et toi, tu es vainqueur. Il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre l'Église. Et quand on croit ça, eh bien, on n'a peur de rien, parce qu'on se confie en Jésus. Ce sont les attachements de notre cœur qui nous dirigent. Ça, c'est les idoles du cœur. Ce qui nous contrôle, ce sont nos racines. Et là, je renvoie à la maison d'Élie que nous avons comme principe de relation d'aide. Ce sont les racines. Quelles sont nos racines? Est-ce que ce qui me contrôle, c'est l'argent? Le rejet, parce que j'étais rejeté, peut-être quand j'étais enfant. L'honneur, parce que j'ai passé d'honneur. Donc je cherche l'honneur dans le monde. Est-ce que c'est les succès? J'ai passé de succès, je cherche du succès. Est-ce que c'est les loisirs? Ah, il faut des loisirs. Non, voilà. Le travail? C'est peut-être un tas de choses qui dirigent notre cœur. Si notre réputation, notre honneur, notre succès, notre travail est plus grand, ça va nous contrôler. C'est ça qui nous contrôle. C'est ce que nous cherchons. Alors, c'est pour ça que nous n'y arrivons pas si nous voulons le faire par nous-mêmes, dépasser tout cela. Eh bien, le secret du changement, c'est d'avoir un amour plus grand que l'argent, plus grand que le rejet, plus grand que l'honneur, plus grand que le succès, plus grand que les loisirs, plus grand que le travail. Et c'est quoi? Eh bien, c'est l'amour de Jésus. C'est d'aimer Jésus plus que tout cela. Et à ce moment-là, le reste va pâlir. Il y avait un chant qui disait « Toutes les choses pâliront de ce monde ». Mais pâliront à partir du moment où je m'attache à Jésus, ce qu'il a fait. Qu'il a fait pour moi. Ce ne sont pas les efforts de la volonté, mes amis, qui vont changer quoi que ce soit et que vous allez faire. C'est si vous aimez Jésus plus que tout cela, eh bien, vous abandonnerez l'argent. Non pas que on a tous besoin d'argent, mais le Seigneur pourvoit. Ne vous préoccupez pas des choses. Le Seigneur pourvoit l'argent. Et ma sœur, tout à l'heure, a bien témoigné qu'elle compte sur la volonté de Dieu. Et Seigneur, il peut être vainqueur des avocats, de tout ça. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est notre attachement au Seigneur et à sa volonté qui va faire tout le reste. Et tout le reste va tomber parce que ça ne tient pas devant la puissance de Dieu. Si nous croyons réellement de la puissance de Dieu, eh bien croyons-y. Et croyons à la puissance aussi de la prière. Il faut voir Jésus par la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui va nous assister pour voir Jésus et voir sa gloire. Dernier point, après avoir vu ce que nous avons le plus besoin, la reconnaissance d'être aimé, accepté. Deuxièmement, comment nous pouvons recevoir ce que nous cherchons en contemplant Jésus et son œuvre? Quel est le résultat? À quoi est-ce qu'on va aboutir? Eh bien, je suis changé quand je regarde la gloire de Jésus avec mon cœur. Avec mon cœur, pas avec mes yeux, pas avec ma pensée, pas avec ma volonté, pas avec ma intelligence, avec mon cœur. Il faut que ce que nous savons ici descende de 30 cm dans notre cœur et que nous ayons Jésus dans notre cœur. Dans Hébreux, chapitre 1, verset 2, il est dit « Dans ces derniers temps, nous sommes dans les derniers temps depuis que Jésus est venu, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. » Jésus est héritier de toutes choses. « Par lequel il a aussi créé le monde. » Il a créé l'alpha, il est l'alpha et l'oméga. et qui étant le reflet de sa gloire, Jésus le reflet de la gloire de Dieu, est l'empreinte de sa personne. Nous avons en Jésus le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de la personne. Parce que Jésus, Dieu est aussi une personne, trois personnes, alors ne cherchez pas non plus à comprendre, mais c'est une réalité également qui nous transcende. Éphésiens 3,16 dit que Christ habite dans votre être intérieur. Jésus ne doit pas habiter dans notre cerveau, dans notre tête, dans nos pensées. Il doit habiter dans notre cœur. Le cœur, c'est le centre de la personne. Ce n'est pas forcément le cœur, on compte le cœur, okay, mais c'est le centre de notre personne. Dans la conception hébraïque, biblique, etc., c'est vraiment centré. Tout ce que nous sommes, et c'est le cœur, au centre de nous-mêmes. Afin qu'il vous donne, dit Hébreux et Éphésiens 3, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs, par quoi ? Par la foi. Par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre. Vous voyez, on comprend, on ne comprend pas au début, on comprend après. Une fois qu'on a Jésus dans le cœur, on comprend. On comprend quoi ? Avec tous les saints, quelle est la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ. C'est là qu'on connaît l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Vous pouvez le voir maintenant, dans la vie présente, en contemplant Jésus par la foi. Alors effectivement, il faut passer par la foi. Alors Spurgeon, qui était très connu aussi comme prédicateur en Angleterre au 19e, a écrit sur le fils prodigue. Et il a prêché tout un tas de sermons sur trois mots. And he kissed him. Il l'a embrassé. C'est au moment où le fils prodigue revient, il vient voir son père et son père l'a embrassé. He kissed him. Il l'a embrassé. Vous savez, l'embrassade, c'est quoi ? C'est de l'amour manifesté. L'amour existe, mais quand vous prenez dans les bras, vous embrassez, eh bien vous manifestez, vous l'exprimez cet amour. Et le père l'a exprimé au fils prodigue. Et parfois, le Saint-Esprit manifeste l'amour de Dieu tellement fort que vous le sentez. Est-ce qu'il y en a qui ont senti déjà l'amour de Jésus ? Levez la main. Voilà. Vous voyez, moi, j'ai connu des paroissiennes qui ont dit « Moi, j'ai jamais senti l'amour de Jésus. » Je comprends que c'est difficile de vivre une foi chrétienne. Je ne dis pas qu'il faut tout le temps le ressentir. Ressentir, vraiment. Mais je veux dire, c'est totalement, ça nous échappe, je comprends que c'est difficile d'être chrétien ou chrétienne. Parfois, le Saint-Esprit se manifeste tellement fort que vous le sentez. Et Spurgeon, qui n'était pas pentecôtiste, c'était baptiste, disait « Quelques-uns le savent et expérimentent l'amour de Dieu tellement fort que j'avais peur. » Et j'ai dit « Arrête la joie, je ne la supporte plus. » C'est Spurgeon. Donc si un non-charismatique, un non-pentecôtiste, un évangélique peut dire ça, comment en plus, nous qui nous réclamons de la Pentecôte, nous pouvons le dire. J'étais tellement rempli de joie que j'étais bouleversé par l'amour de Dieu. Un jour, j'étais à une prédication de Mamadou Karambiri, ceux qui le connaissent, qui est un peu l'apôtre de l'Afrique de l'Ouest. Et il a vécu quelque chose de tellement fort de la gloire de Dieu que... Et avec son assistant, il était dans la pièce, et bien la gloire de Dieu, Dieu était tellement présent que sa chair se déchirait, se séparait de ses os, ça faisait mal, etc. Il a dit arrête, il a dû arrêter pour que Dieu se retire. Voyez-vous, quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est tellement fort qu'on ne peut plus le supporter. Moi-même, quand je me suis converti, j'ai vécu des moments comme ça pendant plusieurs semaines. C'était absolument incroyable, la puissance de Dieu. Et c'est la gloire de Dieu, c'est la gloire. La présence de Dieu est tellement forte que vous le ressentez très fort. Et ça, vous ressentez cet amour. Et dans certaines occasions, on le ressent et c'est difficile à soutenir. Dans l'éternité, nous serons tout le temps dans cette présence. C'est extraordinaire parce que nous aurons un corps différent qui ne subira pas ces contraintes. Verset 26, Jésus dit, « Je te prie, Père, que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Le Père nous aime comme il a aimé son Fils. Il y a, et j'ai terminé là-dessus, il y a 5 raisons pourquoi on est misérable et frustré dans nos relations humaines. Alors, pourquoi ? Parce que, un, on a besoin d'amour pour bien nous sentir. Ça, on a besoin d'amour, pour être heureux. Mais, deuxièmement, on ne peut pas toujours exprimer notre amour. Voyez-vous, à un moment donné, moi, quand j'ai rencontré Michel, c'était à Paris, tout ça, voilà, je sentais cet amour, mais comment l'exprimer ? Est-ce qu'on trouve les mots ? Est-ce que, voyez, vous avez tous certainement vécu ça devant un moment où est-ce que je vais trouver les mots pour exprimer l'amour ? Vous voyez, on est frustré parce que l'amour, ça nécessite parfois, au-delà des mots, d'autres choses pour le manifester. Donc, il y a une frustration. Troisièmement, on a besoin de s'aimer mutuellement. On a besoin de réciprocité. Sans réciprocité, l'amour est vide, voyez-vous. C'est pour ça que l'idée du couple que Dieu a instauré, c'est qu'il y a une réciprocité entre l'homme, la femme, le père, la mère, etc. Ensuite, bien sûr, d'autres temps, même entre l'enfant. On a besoin de s'aimer mutuellement. Une réciprocité. Quatrièmement, on a besoin de voir l'autre heureux. Il n'y a rien de tel que, par exemple, une mère ou un père, il a 5 enfants, par exemple, et il y en a un, que ce soit le dernier ou le premier, dans la vie, ben, il est malheureux. L'amour ne peut pas être parfait, parce que les parents ont envie que tous leurs enfants soient heureux. S'il y en a un au détriment de l'autre, voilà. Vous voyez, c'est une frustration dans la vie. Et, en fait, nous ne voulons jamais dire au revoir. Quand vraiment on aime quelqu'un, c'est le problème du deuil, c'est le problème de la mort, eh bien, on ne veut pas perdre celui qu'on aime. Donc, vous voyez, on est frustré. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans l'éternité, ça n'existera plus ça, mais on est un peu l'image d'une baleine qui échoue sur la plage. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle meurt. La baleine, elle meurt. Elle est faite pour être dans l'eau. Donc, si on ne le remet pas dans l'eau, eh bien, elle meurt. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous, on a besoin d'amour pour vivre. S'il n'y a pas l'amour, eh bien nous allons mourir, comme cette baleine sur la plage. On a été créé pour l'amour, mais tel qu'il se manifeste au ciel. Et nous pouvons le vivre aujourd'hui par Jésus. Aujourd'hui, si nous contemplons Jésus, si nous le voyons, si nous expérimentons ce que Jésus a fait pour nous, nous pouvons déjà avoir un élément de la manifestation de cet amour. On a besoin d'un bonheur parfait, les amis. Parfait. Mais ce bonheur, c'est Jésus, et qui n'existe qu'entre les personnes de la Trinité. Et c'est pour ça que C.S. Lewis, extraordinaire, dans ce qu'il a écrit dans La Grande Danse, un livre qui est un peu plus compliqué que Narnia, mais il faut entrer dans la danse, dans cette danse entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quand on entre dans cette danse, eh bien, on est transformé. Jésus a dit, Père, je veux qu'il soit là où nous sommes. Là où moi, toi et le Saint-Esprit nous sommes. Je veux qu'il soit là et qu'il participe à la gloire que j'ai auprès de toi. Je vous invite à la prière. Seigneur, tu es venu sur cette terre et tu as manifesté la gloire de Dieu dans ta personne. Seigneur, les disciples ont pu avoir ce privilège de voir cette gloire se manifester. Mais Seigneur, aujourd'hui, par ton esprit, tu nous dis que si nous croyons par la foi, si nous adhérons par la foi à qui tu es et ce que tu as fait, que par la foi, nous lisons ta parole pour nous imprégner de ce que tu as fait sur la terre pour nous, eh bien, nous pouvons déjà voir par la foi cette gloire et être transformés de gloire en gloire. Aide-nous, Seigneur, vraiment à passer du temps dans ta parole pour qu'elle puisse nous donner cette image de qui tu es et de qui nous sommes en toi et que cela puisse nous transformer. Je te prie au nom de Jésus. Amen.